Parole d'auteur. Une émission de Monique Fauché.
Un verre de rosé très clair, très frais. Sylvie, paru aux éditions La Bruyère. Tout d'abord journaliste, attachée de presse et directrice de communication, puis attachée parlementaire et actuellement chef du protocole à la mairie de Toulouse, elle s'est lancée dans l'écriture. Écriture tonique à son image, écriture qui pousse à aller de l'avant, à faire la part des choses en choisissant ce qu'il y a de positif dans la vie, ce sur quoi on peut s'appuyer, les amours, la famille, les amis. Une belle ode à l'amitié dans cette quadrilogie intitulée « Un verre de rosé, très clair, très frais » dont Aude Hermé nous livre le troisième tome, édité chez La Bruyère et sous-titré Sylvie. Aude Hermé, bonjour.
Bonjour.
Le titre de votre ouvrage est aussi une sorte de cri de ralliement. « Un verre de rosé, bien clair, bien frais », c'est ce qui remonte le moral des troupes et quand c'est nécessaire, et en même temps un appel à se retrouver.
Oui, c'est effectivement la cloche qui sonne. C'est le moment où ses amis et le cercle s'agrandira au fur et à mesure des livres. C'est le moment de détente, de plaisir. On peut tous dire aussi, sous le ton sérieux, humoristique, amical. Oui, c'est le bon moment.
Oui, alors, on va dire attention à ne boire qu'avec modération.
Bien
sûr. Mais d'où vient-il ce vin ? On va faire un peu de la promo.
Ah, le vin peut venir de Provence parce qu'il est délicieux, peut venir de l'Aude aussi parce qu'il y a des ressources formidables.
D'Occitanie, en tout cas.
Exactement, les viticulteurs se sont lancés dans ce... Parce que c'est vrai qu'avant c'était le rouge, c'était le blanc, il n'y avait rien d'autre. Non, il peut venir de beaucoup de régions, mais l'Occitanie se bat très bien là-dessus.
Oui, et en fait, implicitement, vous faites la promotion de notre belle région, l'Occitanie. En fait, on parle de vin, mais en fait, vous devriez vous associer à Alain Monnier. Il vient d'écrire « Éloge amoureux de l'Occitanie ».
Ah oui, pourquoi pas.
Oui, paru chez Privas. Je vous le dis. Visiblement, vous l'aimez, cette région.
Ah, je l'adore parce que ce sont mes racines, c'est mon terroir, c'est mon cœur qui parle, j'ai grandi là, mes aïeux ont grandi là, ont vécu là, ma famille, mes parents, frères, sœurs, neveux. Il y a un attachement très fort, très profond.
Vous n'avez jamais quitté ?
Si, pour mieux revenir. Oui. Si, je suis partie quelques années à Paris pour faire des études.
Et oui, comme beaucoup.
Et puis, je suis partie un peu, la fleur au bout du fusil, pensant que Paris m'attendait. Non, c'était Toulouse qui me rappelait. Voilà, oui. Donc je suis revenue.
Voilà. L'exil était douloureux.
Un peu décevant, en fait. Oui. Les études avaient leur charme et leur nécessité, mais je crois que là aussi, je n'y ai pas trouvé mon compte, alors qu'à Toulouse, bien sûr, bien sûr.
Alors, j'ai parlé de ce rosé bien clair, bien frais. C'est bon pour le moral des troupes. De quelles troupes s'agit-il ? Vous allez nous raviver la mémoire, puisqu'il y a eu deux premiers tomes.
Voilà. Alors, il y a eu... Le premier, c'était Toscane, qui faisait une rencontre un peu improbable, même totalement, avec un acteur célèbre qui s'appelle Vincent Le Ridon. Et qui allait découvrir le monde du cinéma, mais qui, elle, gardait toute sa fraîcheur et puis sa sincérité
attaches.
Et ses attaches. La deuxième, c'est Céline, un peu faux-folle, un peu amusante, qui est la deuxième amie très proche de Toscane, qui, elle, va aussi rencontrer enfin le compagnon qu'elle attendait depuis toujours, mais d'une manière assez accidentelle. La troisième, vous venez de le dire, c'est Sylvie. Sylvie, elle aussi, part très active dans sa vie professionnelle et puis va connaître une révélation familiale qui va bouleverser totalement sa vie.
Oui, on va en parler. Mais vous oubliez, dans ce groupe, il y a un garçon.
Voilà. Alors, je le gardais pour la fin. Sébastien, c'est l'ami, c'est le frère, c'est le confident, c'est celui qui est toujours là, c'est celui qui sent les choses.
Il est touchant. Il est célibataire, il est attachant. Je trouve qu'il est très subtil aussi dans son comportement avec ses amis, attentif.
Très, très très il veille sur ses trois amis ES parce qu'il a lui aussi une histoire et qui évidemment sera racontée dans le prochain qui sortira.
Et oui. Voilà. Alors lui pour moi c'est un vrai Saint Bernard.
Oui, ça lui va bien, c'est vrai. C'est bien.
Alors donc comment se sont-ils connus?
Alors justement, ce sera révélé dans Sébastien.
Ah,
mais il y a un point d'ancrage qui est au cours d'une scolarité oui. un peu particulière.
Ils ont le même âge quand même, à peu
voilà.
près.
Voilà, hein. Ils ont le même âge, des parcours différents. Pour Sébastien, une actualité à peu près à l'adolescence au niveau du baccalauréat, qui lui aussi va changer le cours de sa vie, qu'il aurait eu tout naturellement, mais... Il va changer d'école, il va changer et il va rencontrer justement à ce moment-là Toscane, Céline et Sylvie et ils vont devenir fusionnels.
Tout à fait, oui. Alors évidemment, la place principale quasiment est Toulouse, une ville aimée de tous où la plupart travaillent. Je dis la plupart, mais pas tous. Bon, on verra cela. Et c'est vrai que visiblement, quand vos personnages en parlent, on sent que c'est une ville très aimée, comme vous l'aimez, vous, et comme je l'aime, moi aussi, d'ailleurs.
Ah oui, oui, oui. Toulouse reste la place centrale, puisque il y a des périodes à La Romieux, il y a des périodes en Normandie à Cormeil, il y en a à Taormine, mais ils reviennent sans arrêt. C'est le point d'ancrage, là aussi. C'est leur... Oui, leur ville, comme elle est pour moi aussi,
oui,
tout à fait.
Oui, oui, oui. Oui, oui. C'est le centre d'un faisceau. Mais il y a, donc, vous avez prononcé La Romieux, c'est un autre lieu stratégique.
Oui, c'est le GER, le magnifique GER avec la collégiale où j'ai eu l'occasion d'aller. Et c'est le début de toute l'histoire de ce livre. C'est au cours de quelque chose de sympathique que j'ai eu l'idée d'écrire cette histoire. Ouais. Et ça se passait à La Romieux. Voilà, c'est les premières lignes. Après, on va en partir aussi parce qu'on va aller, tout en restant évidemment en Occitanie, mais surtout en Haute-Garonne, on va aller dans mon... cœur de... C'est l'Avernos-la-Casse, où là, effectivement, c'est mon terroir, c'est mes racines, ce sont mes parents. Et au fur et à mesure, on va quitter La Romieux, un peu moins Toulouse, mais surtout aller à l'Avernos.
Mmh. Voilà. En suivant Toscane ?
En suivant Toscane, mais surtout en suivant Sébastien. Oui. Parce qu'effectivement, ce sera dans le dernier. Mais c'est Toscane qui a ses origines familiales à l'Avernos.
D'accord. Alors, ils ont leurs soucis, ils ont leurs drames même. Mais... chaque fois, ça donne des lieux à des élans de chaleur et d'amitié. Ce que vous décrivez, ça existe. Mais on en rêve aussi.
Oui, oui, oui. Et c'est parce que quelquefois, on ne l'a pas eu à un moment donné important de sa vie qu'on en rêve et qu'on a envie de l'imaginer, on a envie de le connaître et de dire que ça existe, effectivement. Alors, c'est visé peut-être un peu haut chaque fois, mais oui, moi, je suis persuadée que le sens de l'amitié est très fort et que les amis sont là, bien sûr, pour traverser ce qu'il y a de bon, mais ils sont surtout là pour traverser ce qui est dur, ce qui est difficile.
Oui, moi, j'aimerais savoir qu'est-ce qui fait... Ça, c'est pas évident, d'ailleurs. Ça m'a fait penser, ça fait réfléchir à l'amitié en vous lisant. Qu'est-ce qui fait le ciment d'une amitié? Et puis, peut-être que dans... pas mal d'années, j'aimerais que vous écriviez un livre sur ceux qui sont devenus. Je compte sur vous.
Ah oui, ça serait, oui, ça pourrait être tout à fait amusant et intéressant. Qu'est-ce qui fait le ciment? Le ciment, c'est de se comprendre sans avoir à s'exprimer. Un ressenti, c'est une fébrilité, c'est une fragilité, mais c'est un soutien. C'est souvent ne pas avoir à dire beaucoup de choses. Ça peut se passer au travers d'un regard. Et puis l'amitié, ça peut être une petite parole à un moment donné. C'est pas toujours... pas besoin de grandes dimensions pour prouver son amitié. L'amitié peut être au quotidien, comme tous les trois jours. C'est sentir et aimer les autres.
Oui. Je me suis posé... Probablement qu'ils ont quand même quelques goûts en commun, aussi.
Déjà, le rosé.
Oui,
ça,
oui.
Ça aide.
Les lieux. Là, on ne parle pas de politique, ils n'en parlent pas.
Du tout.
Mais il y a quand même... Je me suis posé la question, ils appartiennent à un milieu quand même relativement aisé, non?
Oui, mais crois. Pas Sébastien.
pas Sébastien.
Non.
En tout cas, il y a quand même, en même temps une grande simplicité hein, dans leur relation et dans leur comportement.
C'est justement pour ça qu'ils sont amis. Mmh. C'est parce qu'ils sont très simples.
Ouais.
Il y a effectivement, on va dire pour les trois filles, un milieu sensiblement semblable. Voilà. Par contre, Sébastien, pas du tout. Et vous le découvrirez dans ce quatrième tome. Et elles font fi de justement de ses origines.
Oui.
Et,
oui,
et voilà, c'est
oui.
pas ça qui va faire que. C'est bien
oui.
plus.
Elles ont compris que.
La dimension humaine.
Voilà. Ouais. Tout à fait. Oui. Et beaucoup ne le comprennent pas, ça.
Oui, ça peut être un manque de sensibilité, ça peut être un manque d'empathie.
Et puis peut-être très. Très bloqué parfois par l'éducation aussi.
Tout à fait. Ouais. Et moi, j'ai eu la chance d'avoir des parents
très
formidables,
très ouverts ouais.
qui nous ont justement, à mon frère, à ma sœur et à moi, montré qu'effectivement, non, ce n'était pas la vraie valeur des gens. Donc moi, mes parents ont passé leur temps à accueillir tout le monde. Les portes étaient ouvertes d'où vous veniez.
Oui. Alors... Toscane a une place importante quand même. Je dirais que, en tout cas dans les deux premiers ouvrages, on a l'impression qu'elle a une place prépondérante même. Elle est celle qui est toujours positive, non ?
Oui, parce que Toscane, en fait, bon, c'est le premier tome que j'avais écrit en pensant que l'histoire était... terminée avec la fin de son histoire à elle, qui était positive. Mais Toscane, c'est effectivement le personnage central parce que c'est celle qui va connaître la plus grande douleur dans une vie. Et donc, c'est
à
comme
savoir
ça.
qu'elle perd ses parents.
Elle perd ses parents et puis elle perd sa sœur.
Et sa sœur.
Voilà.
Oui.
Et elle se retrouve vraiment totalement seule, jeune. Et donc, évidemment, les autres vont se tourner vers elle et elle va faire de cette tristesse, de cet énorme chagrin, va en tirer, parce qu'elle est très forte, elle a cette chance, ce caractère.
Elle est très forte. Oui, alors je me suis posé la question. Ça a été un sujet de discussion, figurez-vous, avec quelques amis. Cette force de caractère, ce sens de positiver, je me suis posé la question, est-ce que c'est inné ou est-ce que c'est acquis ?
Alors je pense que c'est aussi les deux, parce que c'est aussi une bataille. On peut sombrer, c'est vrai, on a toutes les raisons dans nos vies de sombrer à un moment donné.
Tout à fait.
Mais je crois que le bonheur se gagne aussi, se cultive. Donc c'est de l'optimisme. Il faut se battre pour
être
heureux.
Vous ne voyez pas qu'elle a eu aussi quand même, dans la première partie de sa vie, l'amour de ses parents ?
Bien sûr.
Ça
compte,
ça.
C'est ce qui compte. Et puis, et puis l'amour de cette petite sœur.
Oui,
pour laquelle elle va
qui va être
son
très
temps,
malade,
voilà.
Donc elle donnera son temps.
Mais je pense que oui, c'est une construction avec des bases solides qui viennent de l'éducation, qui viennent des parents, qui viennent de l'environnement familial. Et puis c'est toujours pareil, on voit un verre à moitié vide ou à moitié plein.
Oui, il y a peut-être aussi, oui, à un moment donné, une volonté de voir le verre à moitié plein, de voir les points positifs.
Elle est totalement dans cette réaction-là. Dès qu'il va se passer quelque chose, elle va... et d'ailleurs, Sébastien est aussi comme ça. Sébastien, et c'est pour ça qu'ils sont assez centraux tous les deux dans cette histoire.
Oui,
c'est qu'ils
oui,
ont
oui.
Ce même tempérament. Et puis, le faire avec humour. C'est-à-dire que l'optimisme seul peut ne pas réussir toujours. Mais si on ajoute un petit ingrédient d'humour et de gaieté, c'est déjà ça de gagné.
Oui. Alors, on ne va pas déflorer le premier tome, mais très vite, elle va rencontrer l'amour de sa vie. Très vite, elle va avoir des enfants, ce qui n'est peut-être pas fortuit. Elle a besoin de reconstruire une famille, non ?
Ah oui, je pense qu'effectivement, ayant perdu autant de personnes en si peu de temps, elle va avoir besoin de... Et puis pour elle, c'est la vraie vie. Ce n'est pas la vie du cinéma de son mari, de paillettes ou de... pas
qui,
du tout,
qui,
elle
qui,
garde...
Oui.
Elle a les pieds comme lui, d'ailleurs. Hein,
oui, absolument.
Vincent,
oui.
Le ridon, c'est un acteur, certes, c'est son métier, mais ce n'est pas pour autant qu'il s'est écarté de la vie quotidienne, la vie normale.
Et elle lui apporte, justement, et ses amis avec, elle lui apporte cette stabilité.
Voilà, hein. Oui, ils sont comme ça.
Oui, oui. Je me suis posé la question aussi, vous voyez, beaucoup
vous
de questions.
Vous en posez beaucoup.
Oui, qu'est-ce qui fait que certaines amitiés sont durables ? Parce que... Évidemment, vous êtes jeune encore, mais il y a des amitiés qui... on en parlait avec Christian Autier récemment. Il y a des amitiés, puis d'un coup, on ne les voit plus, on se voit moins, puis on ne sait pas pourquoi.
Alors, bon, la vie est ainsi faite aussi, c'est que professionnellement, des gens bougent, voyagent, se déplacent. On est quand même un peu dans une machine au quotidien qui dans la journée, est assez compliqué à gérer. Et c'est vrai que les gens se perdent un peu aussi, mais apprennent souvent à se retrouver. C'est là où il y a une magie, c'est que vous pouvez ne pas voir pendant des mois ou des années une amie qui vous est chère. Mais bon, mais un jour, elle réapparaît et on se retrouve comme si on s'était quitté la veille.
Oui, c'est vrai, c'est vrai. Oui. Et oui, et même plus tard, vous voyez, même quand on arrive à un âge beaucoup plus avancé, on a envie, tiens, mais qu'est-elle venue ? Puis c'est vrai que vous parlez des distances, mais il y a les métiers, les activités qui prennent le temps. Donc, une amitié, ça se cultive, et forcément, voilà.
Ça se cultive.
Et oui. Alors, je me suis dit aussi que pour ce groupe-là, en fait, à part Toscane qui perd sa sœur, les autres, on n'entend pas tellement parler de frères et sœurs. Donc, ils ont besoin de ça.
Exactement.
C'est quand même une fraternité, quasiment, non ?
Oui, ils ont tous besoin. Et c'est un peu ce que dit Sébastien dans son dernier tome, sans révéler. Mais effectivement, ils n'avaient pas de frères ou de sœurs, sauf Toscane. Mais justement, c'est pour ça qu'ils ont eu ce besoin de créer un lien très fort, parce que c'est tellement bien d'avoir un frère ou une sœur qu'ils ont voulu créer parce qu'ils ne l'avaient pas.
Oui, oui, oui. Vous-même, est-ce que vous avez créé un groupe d'amis comme ça ?
Ah oui, moi j'ai des amis, bien sûr. Des amis, pourtant j'ai un frère et une sœur, hein, mais j'ai des amis, très chers. On est là... L'une pour l'autre, on sait évidemment se retrouver, s'envoyer des petits signes d'amitié.
C'est précieux.
C'est très précieux, ça fait du bien.
Oui. Alors quelle place ont les pièces rapportées, on dit maintenant les valeurs ajoutées.
sont complémentaires. D'abord, ils leur ressemblent sans être les mêmes, parce qu'ils auront beau faire... Ils seront toujours quand même en deuxième rôle.
Oui.
Voilà.
Oui, oui.
Mais malgré tout, c'est pas anodin si ces pièces, ces valeurs ajoutées sont celles-ci. C'est parce qu'il y a des similitudes, il y a des complémentarités. Pareil, il y a les mêmes qualités de cœur, les mêmes qualités de vie, la même gentillesse, la même attention. Donc, c'est pas anodin si se sont trouvés justement, chacun à réussir à construire une vie.
Dans l'ouvrage Sylvie, donc, quel âge ont-ils à peu près ?
Oh, ils ont une quarantaine d'années.
Alors, ce que j'ai aimé, c'est que, justement, c'est ce que j'avais calculé à peu près, ils gardent l'esprit primesautier. Et j'adore ça.
C'est vrai.
Savoir que tout d'un coup, ils se donnent un challenge, hein, celui qui comptera le nombre de voitures,
bleues ou vertes, qui triche et qui a changé la règle du jeu.
Ils ont des jeux vraiment inattendus. Et c'est vrai qu'on rit, parce que dans le fond, c'est vrai que quand on est avec un groupe d'amis intimes de longue date, on peut dire des bêtises, on peut s'amuser, voilà. Je pense que quand même, Toscane a eu de grands malheurs, mais de tous, c'est celle qui finalement a trouvé très vite un grand équilibre sentimental et affectif.
Oui, alors c'est mêlé, c'est le hasard et c'est la chance aussi, parce qu'effectivement, il y a peu de chances qu'elle rencontre Vincent Le Ridon. C'est vraiment comme quoi la vie est bien faite aussi, hein, le hasard. Et en fait, comme elle est très déconcertante, très amusante, et lui, qui a une histoire pas très rigolote, en fait, très vite, il va tomber sous le charme. Et tellement vite, c'est soudain. Elle-même a un certain frein quand même, hein, veut pas, est un peu apeurée par l'environnement de Vincent. Elle va pas se dépêcher, voilà. Oui. Mais au fond, on voit bien quand même par des petits signes que oui, elle n'est pas insensible. Oui. Mais c'est plus lui qui, en fait, la rassure.
Et je pense qu'il a été séduit également par l'environnement amical.
Oui, parce qu'il a vu effectivement que ces amis-là, c'était des vrais. Alors que lui, vivait sans doute ou vit dans un environnement où il y a plus de rivalité, de compétition que d'amitié.
Tout à fait. Alors, Odermie, je vous propose d'écouter une musique que vous avez choisie. Alors, il s'agit de quoi ?
Alors, il s'agit de Clara Luciani, La Grenade, qui est une musique qui est formidable parce que l'interprète est une fille chanteuse, artiste, pleine d'énergie, qui aujourd'hui colle exactement à ce que l'on attend. Et elle aussi, elle vous transporte, j'ai eu la chance d'aller la voir en concert. Et puis, c'est une musique que j'ai entendue une première fois ou une seconde fois dans un moment un peu particulier et qui, curieusement, me fait penser à mon papa. Voilà.
Nous l'écoutons.
D'auteur Monique Fauché.
Oui, alors nous venons d'écouter cette chanson. Claude Hermé, vous pouvez nous... Aude.
Mais c'est joli, Claude.
Oui, Claude aussi. vous pouvez nous dire le choix. Là, je crois qu'il y a une résonance sentimentale très
Tout
forte.
Tout à fait. C'est un choix très sensible, puisqu'effectivement, c'est un air que j'ai entendu. J'étais à ce moment-là avec ma sœur et nous partions au chevet de mon papa, et c'est vrai que nous étions évidemment bien tristes, mais en revanche, justement, je l'écoute avec beaucoup de bonheur, parce qu'elle est très gaie, parce qu'elle est très énergisante, elle est très dynamique, oui. Et c'est comme oui. ça qu'il faut le prendre.
Oui. Tout à fait. Alors, donc, on a parlé de Toscane, c'est la seule d'ailleurs qui a des enfants.
Oui, mais qui, les autres en auront sans doute.
Oh, on attend, on attend.
On attend.
On attend. Certains ont quand même des vies plus compliquées. Et alors, justement, vous parlez de sujets assez fréquents actuellement. Par exemple, il y en a une, Sylvie est à Montpellier, Julien est à Londres. Ça arrive de plus en plus fréquemment. Et c'est vrai que je me dis que pour les couples, c'est compliqué, c'est fatigant, compliqué, c'est déstabilisant même.
Ah oui, complètement. C'est être séparé du lundi au vendredi, oui. Se retrouver le vendredi soir à minuit pour repartir le dimanche. C'est pas très facile sans doute pour construire une vie.
Oui.
Après, il y aura des choix à faire et peut-être que Sylvie ou Julien le feront. Mais c'est vrai que c'est pas très, très simple de construire une vie à deux, voire à plus, avec autant de distance.
Oui, mais justement, alors il y a ce problème. Vous abordez des thèmes d'actualité comme l'ennui au travail ou l'envie de changer de job, de lieu.
Alors ça, oui, c'est amusant parce que je n'ai pas du tout envie de changer de métier, bien au contraire. Mais je pense que j'ai dû voir autour de moi ou sentir effectivement ces questionnements qui arrivent à cet âge-là.
Oui. De plus en plus.
Voilà, et de plus en plus tôt avec des envies aussi de changer de vie. Les citadins ont envie de partir à la campagne, changer radicalement de vie. Est-ce qu'ils ont démarré trop tôt? Pas forcément, mais comme on est dans les changements assez fréquents, je crois que les gens, on mesure que la vie, en plus, depuis ces deux dernières années aussi, la vie est assez courte et donc l'imprévu, par définition, on ne sait pas qui va arriver. Et les gens se préparent, ils ont envie de changer, ils ont envie de profiter de tout, en fait. Je crois que c'est ça. Ils ont envie de connaître 1000 vies en une.
Oui. Sans avoir peur du changement, ce qui était le propre quand même de ma génération. Hein, on essayait de... Alors, je ne sais pas, est-ce que ce que vous dites, oui, envie de tout, savoir profiter du temps présent, savoir profiter du temps libre pour sa famille, par exemple. Or, ça n'existait pas tellement, ça.
Non, mais on revient...
Tout le monde se plongeait dans le travail à fond, et la famille, parfois, était un peu occulté.
Oui, et justement, je pense qu'il y a eu des souffrances aussi, des leçons qui ont été tirées de tout ça. C'est que il y a des bases, et il y a des bases de bonheur, il y a des bases de construction, et la famille est évidemment présente. Oui. Donc on voit des papas qui arrêtent de travailler pour s'occuper de leurs enfants,
oui,
les élever de plus en plus, alors que c'était quelque chose
inimaginable. Ils vont les chercher à la crèche ou à l'école.
Ils s'en occupent comme une maman.
Oui.
Le temps que la maman arrive et vice-versa.
Oui, oui, oui. Alors, il y a aussi, est-ce que je me trompe, j'ai cru déceler une certaine nostalgie dans ce troisième tome. Une nostalgie liée peut-être à la jeunesse. Ce sont des personnes encore jeunes, évidemment, mais enfin, ils ont eu 20, 30 ans. Une certaine liberté également. Est-ce que je me trompe?
Non, vous ne vous trompez pas. Alors, ça revient quelquefois parce que ils ont été tellement bien ensemble et on comprend encore davantage dans le quatrième et dernier tome, mais ils ont été tellement bien ensemble, ils ont tellement fait de choses que ils sont heureux aujourd'hui dans leur vie chacun en couple, mais ils aiment être au final quand même tous les quatre, parce qu'ils peuvent évoquer des souvenirs les souvenirs communs peuvent rire
sans
de choses.
Sans doute, ils se parlent même à demi-mot, tout de suite.
Et ça peut partir en éclat de rire. Et évidemment, ceux qui n'ont pas connu cette période d'avant ne sont pas mis à l'écart, mais se sentent moins, évidemment, impliqués, concernés.
Alors, si ce troisième opus s'intitule « Sylvie », c'est qu'elle va être le personnage principal. Que se passe-t-il? On ne parlera pas de la fin, on n'entrera pas, mais quand même, il se passe un drame.
Il se passe un drame, puisque Sylvie perd son papa. Mmh. Voilà.
Premier drame.
C'est son drame. Et à la suite de ça, elle apprend une nouvelle qui est liée au décès de son papa.
C'est le tsunami.
Voilà.
On peut en parler de cela, parce que c'est un problème que je connais des personnes qui ont connu cela. Si vous voulez bien, on ne va pas parler des suites.
Hein. Ah non, bien sûr. Elle apprend, en fait, le jour de l'enterrement de son papa, que c'est une enfant adoptée. Voilà. Donc, pour elle, jamais ça n'avait été envisagé, ni évoqué, ni... Et donc, elle va avoir une réaction très forte, ce que l'on peut évidemment comprendre, parce qu'à l'âge qu'elle a, Elle aurait peut-être aimé qu'on le lui dise avant. Mais ils ont, les parents, voulu à la fois la préserver. C'est tandis que c'est le dernier qui restera qui le dira. C'est ce qui a été fait. Mais pour elle, et puis elle va évidemment partir à la quête de sa famille, ses parents. Et donc, c'est ce qui nous amène,
oui,
en Italie.
Oui. Et c'est vrai qu'en lisant, on se dit, mais bon, elle a été adoptée par des parents adorables qui l'ont aimée. Bon, eh bien non, et c'est le tsunami. Et je crois que nous ne réalisons pas l'importance de la filiation, l'importance des origines.
C'est primordial parce que surtout quand on apprend si tardivement et qu'on ne sait rien, puisqu'elle va vraiment mener son enquête, elle va tout lâcher pour essayer de retrouver sa vraie famille. Et c'est ce qui va donc nous amener à Taormine. Mais elle a ce besoin et elle va évidemment pardonner, parce que le pardon est primordial dans la vie, quoi qu'il vous arrive. Mais c'est vrai qu'elle va pardonner à sa maman de lui avoir caché si longtemps.
Oui. Elle va faire des démarches pour connaître. Enfin, ça va être long. Et c'est vrai qu'à un moment donné, aux grandes dames de ses amis et de son compagnon, elle se retire. Elle a besoin de faire le point, d'être seule pour... Voilà. Et c'est vrai que ces non-dits, on se sent sans doute grugé. Enfin, grugé peut-être un peu fort, mais enfin...
Un peu trahi.
Trahi, c'est plutôt le mot.
Trahi. Un peu trahi, et en fait, c'était une erreur, parce que c'était plus un sens pour la préserver. Mais les non-dits non expliqués, ou tardivement ou mal, alors qu'ils ont quelquefois un vrai fondement. Mais,
oui,
mais il faut pouvoir, à un moment donné, libérer la vérité et dire...
Je vais lire un tout petit extrait, je vous demanderai de lire une autre partie. Voilà ce que dit Sylvie. « Mais j'ai perdu toute une partie de moi, celle qui faisait que j'étais moi. Je savais qui j'étais, d'où je venais, mes racines, l'histoire de ma famille, mon père, ma mère. Et là, plus rien. Nothing. Niente. » Voilà, tout d'un coup, elle se sent nue.
Exactement, elle a plus la tâche.
Oui. Alors, page 84 et 85, voilà ce qu'elle dit encore.
Alors, effectivement, elle est en crise à ce moment-là avec Julien. Et elle dit...
Il faut reconnaître que Julien la dure un peu. Hein, il est vraiment gentil. Hein.
Oui. Et elle lui dit, mais est-ce que tu crois que je peux manquer à quelqu'un, moi ? Parce qu'effectivement, elle est dans cet abîme, ce vide, et le ton monte, et elle reprend. Moi qu'on a abandonné, moi qui ne sais plus qui je suis à 40 balais, moi qui construisais une histoire avec toi, et tu crois que je vais m'emmerder à donner naissance à des petites souris qui seront abandonnées et rongées par un vilain gros matou ? Non, non, tout ça n'a plus de sens, je m'en fous, j'ai goût à rien, à plus rien, et pourquoi tu me gardes, hein ? À quoi je te sers ? Voilà, elle a ce besoin de crise, révéler son...
Elle se sent totalement niée, totalement démunie, oui. Et elle dit aussi, tu vois, tu ne réponds pas quand elle dit à quoi je te sers. C'est sûr, je comprends. En fait, si mes parents, les vrais, m'ont abandonnée, c'est que j'étais déjà pas intéressante pour eux. En fait, ils ne me voulaient pas, j'en suis sûre. Je suis, comme on dit, un accident, un incident. Une erreur de jeunesse. Et les autres, hein, mes faux parents, pourquoi ils m'ont pris ? Ils m'ont volé ? Ils ont eu pitié ? Voilà, c'est ça. Ils ont eu pitié d'un bébé moche, abandonné dans la rue, sur les marches d'une église, comme autrefois. Une fille de plus, elle pleure de plus en plus. Et toi, tu vas faire pareil. Tu vas me laisser, parce qu'aujourd'hui, je suis la Sylvie qui devient chiante, méchante, odieuse, à bout de nerfs. Et puis, je ne sais plus. Je ne sais pas si j'ai envie de rester avec toi. Tu as de la pitié envers moi, je le sens. Je n'ai pas besoin de ta pitié. J'ai horreur de la pitié. Je n'en veux pas, ni de celle de personne. C'est très violent. Très, très, très violent.
Très violent, oui. C'est vraiment la crise, à la limite, de l'hystérie, mais elle est obligée, je pense, d'en arriver à cette extrémité-là pour justement partir. Parce que déjà, il va falloir qu'elle parte pour se retrouver, pour se reconstruire. Mais je pense qu'elle tape le pied au fond de la piscine, en fait. Donc, c'est ce passage obligé.
Oui, le passage obligé. Maintenant, on sait qu'il faut expliquer dès l'enfance. Et j'espère que tout le monde le sait, même si c'est parfois un peu difficile pour les parents qui sont en mal d'enfant et qui ont un enfant petit, par exemple. Mais c'est un fait que ça abolit bien les problèmes. Ça peut abolir bien les problèmes. Alors, la réaction des uns et des autres, évidemment, ils sont là, présents, tous.
Ils sont là, présents, ils veulent l'aider, mais je crois que c'est un cheminement qui est très personnel.
Ouais. Ouais.
Et que malgré leur amitié si forte, ils vont avoir du mal, sauf Sébastien, qui va devancer. Mais elle va avoir besoin de temps, et ce temps, finalement, que ce soit Toscane ou Céline, elles vont la laisser tranquille, elles comprennent. Et Toscane a cette sensibilité plus forte même que Céline. Elle comprend que dans un grand malheur, il ne faut pas se précipiter pour même consoler, parce que c'est mettre un petit pansement sur une immense plaie.
Oui.
Et au contraire, elle se dit, c'est le temps qui va faire. Alors, elle ne va pas la lâcher, mais oui. elle va miser sur le temps, et Sébastien
voilà.
aussi. Voilà.
Et elle va savoir remonter. Et quand même, je crois que également le cri de ralliement, ça serait ne rien lâcher.
Ne rien lâcher.
Voilà. Jamais. Les amis ne lâchent pas non plus.
Ne lâchent pas non plus. Jamais. Dans la vie, il ne faut pas lâcher.
Ben voilà. Alors, Aude Hermé, j'aimerais que vous me disiez, on parle de la forme, parce que ça surprend beaucoup. Pourquoi ? Alors, évidemment qu'il y a de plus en plus de BD et même de mangas. Je vois, on en parle dans Le Monde, il y a eu des articles là-dessus. Mais vous avez choisi une autre forme qui est quand même rare. Je ne sais pas s'il y a eu déjà... Vous avez créé une autre forme. Alors, comment vous la qualifierez ?
En fait, c'est un scénario qui est écrit, donc qui serait potentiellement destiné au petit écran. Pourquoi cette forme d'écriture qui n'obéit en rien aux règles de la littérature ? C'est parce qu'effectivement, j'avais commencé à écrire un roman qui reprend exactement, mais peut-être que mon style à moi n'y trouvait pas son compte. C'était pas assez dynamique, ça. Oui. Et donc, j'ai dit, tiens, au fond, si j'essayais, voilà, si je D'accord. l'écrivais sous forme de scénario.
Voilà, c'est une forme de scénario. Il y a des dialogues, il y a des didascalies, d'ailleurs. Hein, des indications, effectivement, tout est prêt. On peut dire aussi, quand même, que ça correspond aux besoins du jour, à savoir que les gens sont tellement sollicités, ils n'ont pas beaucoup de temps, ils lisent moins, ils sont dans les embouteillages, et peut-être qu'en effet, il y a des choses plus agréables à lire que d'autres.
Alors, c'est effectivement, le format fait que ça se lit très vite. On peut en deux
pas
heures...
Pas tout à fait très vite, quand même. Hein. Oui, moi, je suis inappliquée, moi,
voilà,
vous savez.
vous êtes une professionnelle, donc c'est normal. Mais... Non, là, je pense que là aussi, chacun va y consacrer le temps qu'il pourra, mais y en a qui peuvent peut-être le lire en deux heures, il y en a qui vont apprécier et le fractionner ses temps de lecture, donc ça prendra évidemment plus de temps, donc vont peut-être plus ressentir les subtilités d'humour ou de sensibilité. Voilà, c'est une lecture, malgré tout, assez rapide, parce qu'il n'y a pas non plus trop de pages.
Et agréable à lire. Alors, avant de nous quitter, Aude Hermé, d'une part, voilà, j'aimerais qu'on écoute, vous avez parlé d'une musique qui plaisait à votre père, qui vous évoque votre père. Et là, maintenant, c'est une musique... radiophonique, on va dire.
Oui, totalement.
Alors, de quoi s'agit-il ?
Alors, c'est la musique de Radioscopie, Jacques Chancel, qui a bercé notre enfance, mon frère et moi, et ma sœur, bien sûr, parce que c'était le retour d'école. Et dans la voiture, entre Toulouse et Lavernoz, maman écoutait tous les soirs. Et nous avions droit à des moments de radioscopie, puisque c'est terminé quand même sur un certain morceau du chemin. Mais c'était à la fin où elle nous disait « Alors les enfants, comment s'est passée votre journée ?» Voilà. Et on a passé plusieurs années avec Jacques Chancel en voiture. Et tous ses invités, ses mamans s'en régalaient et ô combien elle avait raison. Et nous, cet air nous a vraiment bercé tous les jours. Et c'est pour ça qu'aussi, j'ai une grande pensée pour elle.
Alors, nous allons nous quitter en écoutant cette musique et en pensant à votre maman. Je rappelle à nos auditeurs qu'il s'agit d'un ouvrage écrit par Aude Hermé, intitulé « Un verre de rosé très clair, très frais ». En fait, c'est le troisième tome et il y en aura un quatrième, sous-titré « Sylvie » et édité chez La Bruyère. Au revoir, Aude.
Merci beaucoup. Au revoir.
Merci à vous.